France Inter.
C'est comme pour un acteur, c'est la personnalité. La présence.
Je vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un des films, il faut que ça coule dans tes lèvres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On en parle. Tout.
Allez, action !
Action, pourquoi faire ?
C'est trop bien, dit-il, de faire des films quand on n'avait pas prévu d'en faire. Et c'est trop bien de voir ce musicien devenir un acteur qui compte désormais dans le paysage. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à tous.
Pour ce film-là, il a traversé le miroir. D'artiste, il devient critique d'artiste. Bonjour Benjamin Biolay.
Bonjour.
Oui, Arthur, un critique croque qui un jour va enlever son casque pour se reconnecter au monde. C'est vous dans ce film, quelques jours pas plus. Un premier long métrage que vous portiez en vous depuis longtemps. Bonjour Julie Navarro.
Bonjour.
Pour raconter votre époque, les migrants, avec un ton différent, l'engagement et l'humour en récompense. Au départ, c'est un livre de l'influence du lancer de Minibar sur l'engagement humanitaire. Bonjour Marc Salbert.
Bonjour.
Ce drôle de récit dont vous êtes l'auteur, vous l'avez scénarisé avec Julie pour le grand écran. Quelques jours pas plus, avec Benjamin Biolay et Camille Cotin, entre autres, sortira mercredi prochain. Enfin, les sorties de la semaine du jeu de la reine à Los Delincuentes. C'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Bonjour, journal Bonjour. De l'époque. Merci.
Aujourd'hui, c'est les migrants. Demain, ce sera les petits-déj de la CGT, c'est ça ? Faut vraiment que t'arrêtes les expats.
On aurait dit des mentos. Pareil.
En tout cas, c'est sympa le quartier. Hein. On devrait venir plus souvent.
Dans 20 minutes, je te dis.
Comment ça, il n'y a plus de place ? Et l'autre, Mathilde, il n'y a plus de place, il n'y a plus de bus.
Excusez-moi de vous déranger.
Et la liste prioritaire ?
Mais je ne sais pas.
Vous avez la liste prioritaire ?
Excusez-moi, Arthur Berthier de l'époque, on couvre l'évacuation, je peux vous poser d'autres
Alors,
questions ?
Pas du tout le moment.
Non, mais j'en ai
Normalement,
il y a une...
c'est pas le moment, monsieur. On a une autorisation du préfet, il n'y a pas d'évacuation, il y a une liste prioritaire.
Pardon, Alain, je suis responsable de solidarité.
Ça, c'est des réfugiés qui viennent d'où ?
Écoutez, là, malheureusement, il y a 80 personnes qui vont rester sur le carreau apparemment. Là, vous avez des réfugiés qui viennent. Alors, il y a des Somaliens, il y a des Érythréens, il y a des Syriens, encore quelques-uns. Mais il y a surtout des Afghans, parce que là, depuis le retour des talibans... Pablo, vois si Mabrouk est parti.
Il y a des Afghans ?
Oui,
vous
parce
pensez
que...
qu'on peut parler à des Afghans ?
Écoutez, on va faire vite parce que...
Arthur Berthier, Benjamin Biolay, critique rock relégué aux infos générales après avoir saccagé une chambre d'hôtel, est envoyé dans un rassemblement de migrants, puis blessé par un CRS, il va à l'hôpital. Ensuite, il va découvrir une association d'aide aux réfugiés et s'engager malgré lui. C'est l'histoire d'un type dans une bulle, la musique qui va se prendre l'époque en pleine gueule. C'est votre film, quelques jours, pas plus, Julie Navarro. Mais c'est à l'origine, même s'il est adapté, votre livre, Marc Salbert, de l'influence... Je le disais, du lancer de Minibar sur l'engagement humanitaire, c'est peut-être une référence au film de Paul Newman, de l'influence d'Arion Gamma sur le comportement des marguerites.
Ouais. Je pense que oui.
Ah d'accord.
Titre n'était pas de moi.
Ouais, il était beau ce titre. Il aurait été un peu long pour un film. À part de votre cerveau, il vient d'où ce pitch, Marc Salbert ? C'est l'idée d'assembler deux histoires, deux êtres qui n'auraient jamais dû se rencontrer ?
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, moi j'habitais à l'époque à Max Dormois, déjà avec Julie.
Et j'ai... Ah, vous êtes ensemble, d'accord.
Oui, on va vous dire la vérité.
Ça c'est fait.
Tout le monde est au courant, c'est parfait. Et du coup...
Parce que ça vient de lui, hein, ça vient pas de moi.
En plus, je vous l'ai dit tout de suite. Et donc j'ai vu s'installer des camps de migrants en bas de chez nous, et vraiment je me suis intéressé à ça. J'ai eu cette idée, je ne sais pas comment elle est venue. Hein. Un matin, je me suis réveillé en me disant, tiens, je vais écrire quelque chose là-dessus. Et comme je connaissais un peu le milieu de la radio, de la musique, je me suis dit, tiens, pourquoi pas un critique musical qui rencontrerait un exilé. L'idée est partie de là.
C'est ça, aborder la thématique migrant avec un angle très différent.
Oui.
Vous avez tout de suite vu un film, Julie Navarro, à partir de ce livre.
Tout de suite. Quand je l'ai lu, je me suis dit, c'est un film. Je me suis dit intérieurement, c'est un film que j'aimerais bien réaliser, mais je n'avais pas encore réalisé, rien. J'étais directrice de casting.
Oui.
Et ça a mûri un petit peu. J'ai invité des producteurs avec qui je bossais en directrice de casting à la dédicace du roman de Marc. Et je me suis dit qu'ils allaient être polis, qu'ils allaient acheter le bouquin, voire même pousser la politesse à le lire. Et ils l'ont lu. Et ma productrice m'a dit, mais c'est un film, c'est du David Loche, c'est ce que c'est drôle, c'est un film. Et je lui dis, ouais, bah, c'est un film que j'aimerais bien réaliser.
Et c'est un film dont vous connaissez un peu l'histoire, puisque petite, vous avez baigné dans cette ambiance, puisque votre mère recueillait des réfugiés chez vous. Donc, ça a bercé un peu votre enfance, adolescence.
Oui, ça a totalement bercé mon enfance. Elle était, oui, très, très, très engagée. Elle se foutait un peu des notes, des devoirs. Et de... voilà. Par contre, dès qu'on a su un peu écrire correctement, c'était plus important de remplir des dossiers de demande d'asile, et donc je connaissais ça très bien. Mais à l'époque, oui, c'était beaucoup d'Iraniens, beaucoup de Chiliens, d'Argentins à la maison, et c'était un peu des héros pour nous.
Mais ça change un regard sur la vie, ça, quand on est éduqué comme ça.
Ça change un regard, oui. En tout cas, c'était très naturel chez nous. Il n'y avait rien de finalement militant et héroïque, à part que, effectivement, comme Marc venait de le dire, quand se sont installés il y a quelques années une nouvelle population de réfugiés, je me suis rendu compte qu'on n'avait plus vraiment le même regard que dans les années 80, 70 ou 80, quoi.
Donc le film, vous l'avez tout de suite vu, et vous avez tout de suite vu, c'est ça qui est une des belles idées du film, de faire incarner par un auteur-compositeur-interprète le rôle, donc de traverser le miroir, effectivement, le rôle du critique. Et pourquoi lui? Pourquoi Benjamin Biolay?
Alors quand on a écrit, j'ai dû, et pourtant je suis directrice de casting, j'ai essayé le perfecto, les lunettes teintées à tous les comédiens du cinéma français, tous.
Quand vous écriviez?
Ouais, voilà. Je cherchais, donc ouais. Ça marchotait, je fabriquais. Et à fin d'écriture, je n'ai pas Arthur Berthier. Je suis la plus nulle des directrices de casting, c'est-à-dire je n'ai pas le rôle principal. Et on était en fin confinement, je pense que Benjamin devait sortir son album Grand Prix. Et je me retrouve, ces fameuses émissions de radio filmées. On a un petit différent avec Benjamin là-dessus, qui me dira que c'était un truc enregistré le matin. Moi, je l'ai vu l'après-midi, oui, en l'occurrence.
Peu importe.
Et Benjamin a un casque comme ça.
Comme ça veut dire une oreille en haut.
Exactement,
et
tombé du lit, hyper, et parle de son album. Et j'ai une apparition.
Mmh.
Et je me dis, mais c'est lui. Et je crie dans toute la maison, c'est Benjamin Biolay. Marc me prend pour une dingo. J'appelle mon agent, c'est Benjamin Biolay. J'appelle son agent, qui me dit qu'est-ce qui se passe, à peine au courant que j'avais écrit un long métrage. Mmh. Je lui dis, je vais t'envoyer un truc, c'est pour Benjamin Biolay. Et je crois que 48 heures après, je recevais une photo des converses de Benjamin avec notre scénario. Et il y avait marqué, je suis dingo de ce scénario. Et donc je pense que...
Benjamin, dingo, et puis il y a l'idée très drôle aussi d'incarner l'inverse de votre métier aussi. Bon, il y a un garçon un peu plongé dans l'époque, effectivement. Et puis l'inverse, c'est drôle parce que vous avez beaucoup observé les mecs qui vous interviewent.
C'est un bien grand mot, parce que parmi les critiques musicaux que je connais, il y a des très bons musiciens.
Hein, ouais.
Parfois, le destin vous simplifie pas les choses, et puis on se retrouve à peut-être faire quelque chose qu'on n'aurait pas, qui n'était pas votre choix numéro un. Mais je pense à Eric Dahan, par exemple, c'est un très grand chanteur, j'ai déjà fait un enregistrement avec lui. Donc, l'inverse, j'en suis pas si sûr. Et surtout, dans ma mythologie, il y avait Lester Banks, quelqu'un qui se sont avérés être, en fait, de grands artistes qui ont été publiés. Et puis, évidemment, j'ai fait 25 ans de prépa, donc c'est hyper pratique. Non, mais ça change tout, de connaître vraiment les gens, y compris dans leur intimité,
Le look, pas forcément pour vous embellir, d'ailleurs, avec ses lunettes, ce blouson et ce pansement pendant la moitié du film, c'est acceptable facilement, ça?
Oh bah oui, non, c'est pas du tout gênant, ça, c'est plutôt marrant même. Ouais. Le turban, comme on disait, c'est quand même un truc comique évident au cinéma, quoi, d'être un peu déformé par une prothèse quelconque, c'est un des trucs...
Oui, la barbe aussi, j'avais envie de t'aider
la barbe. Je me suis... Mais parce que je les voyais un peu comme ça, quoi, je connais pas un critique qui se rase le matin, quoi.
Manœuvre? Non. Marc Salbert, c'est intéressant parce que c'est un type que vous avez créé et tout d'un coup il s'incarne.
Il s'incarnait.
Ouais.
Et alors? Il n'aurait pu mieux s'incarner. Non mais vraiment, maintenant je ne peux plus penser à Arthur Berthier sans penser à Benjamin.
Tant mieux, j'ai envie de te dire. Ouais.
Et vous pensez que ce critique que vous avez écrit, ces types qui font de la musique, qui sont enfermés dans une bulle?
C'était un petit peu moi. Hein. J'ai un côté aussi un petit peu enfermé dans une bulle. J'écoute beaucoup de musique au casque, en fait.
Ouais.
Donc, mais de temps en temps, Julie me débranche le jack pour que je reconnecte à la réalité. Et ça fonctionne.
Mais Benjamin, vous êtes enfermé, vous vous trouvez parfois enfermé dans la musique. Pourtant, vous avez l'air d'être conscient du monde, vous signez des choses.
C'est pas du tout la même chose. Moi, je suis obligé d'être... en studio, en tournée. Voilà, la musique, elle me fait voyager, elle me fait rencontrer des gens. Quand on se met à théoriser ou à thésauriser la musique, à en faire l'objet de sa thèse intime, c'est vraiment vertigineux. On est aspiré dans un tunnel qui ressemble à un trou noir pour l'entourage. Mon père était comme ça, il écoutait du classique au casque, il disparaissait, quoi. C'est vraiment... Ouais.
Vous habitez Paris aussi.
Oui.
Vous les voyez, les migrants, dans la rue?
Oui, je vois beaucoup de réfugiés aussi. Je vois beaucoup de... Je les voyais pas beaucoup, hein. Vous savez, c'est normal. C'est ça que j'aime bien dans ce film. Et c'est pour ça que moi, je suis resté très, très vierge par rapport à tout ça avant d'être sur le tournage. Déjà, je savais que tout était véridique, parce que Julie et Marc ont vécu ça. C'est pas, c'est pas un fantasme bourgeois.
Ouais, on sent que c'est enquêté.
De loger des gens. Et moi, je me reconnaissais. Moi, les abuelas de la Plaza de Mayo, vous voyez, les grands-mères de mai qui réclament leurs enfants, vous voyez, de la dictature. Je m'en foutais complètement avant d'aller faire des concerts et m'amuser a priori en Argentine. Je suis comme tous les Français, je ne m'y intéressais pas. Et voilà, puis après, en fait, en rencontrant les gens, on rencontre leurs combats, leurs idéaux, leur intimité. C'est ça qui me plaisait dans ce personnage, c'est qu'il était plus vrai que nature.
Il y a un petit côté rom-com, comédie romantique aussi, puisqu'il va, c'est bien de mêler la politique, un fait grave de société, l'humour, une comédie romantique, puisque lui va tomber sous le charme de Mathilde, donc Camille Cottin, la responsable de l'association, et il va accepter malgré lui de devenir parrain, donc d'héberger chez lui le jeune Afghan Daoud. On va écouter cet extrait, mais comme Benjamin et Violet et Daoud parlent anglais dans ce film, et ben on va vous demander de... Exercice d'équilibriste, de traduire en même temps qui parle. Allons-y.
Désolé, c'est un peu le bordel.
Pas de souci.
Là, c'est le salon. C'est la cuisine. Là, tu as la salle de bain, les toilettes. Il y a une room, mais enfin, il y a une chambre, il n'y en a qu'une, donc tu peux dormir sur ce canapé. Mais ce canapé, mais c'est pas seulement un canapé, c'est.
Désolé, monsieur.
C'est pas grave, touche pas. Je peux vous dire. C'est pas seulement un canapé, c'est un clic-clac.
Ça va, monsieur, je peux dormir comme ça. Je reste seulement quelques jours. Je veux aller en Angleterre.
Ah, vraiment?
Ok.
Donc tu peux dormir.
Oui, c'est bon.
Tu sais, l'association m'a demandé de t'aider avec ta demande d'asile.
Oui, merci, mais je dois aller en Angleterre. Je vais voir mon père et mon frère. Mon père est malade.
Ah, désolé. Voilà.
C'est une très jolie scène, parce que tout d'un coup, on se rend compte de ce que c'est que d'être journaliste rock, d'avoir son petit appartement, de célibataire, bourré de 33 tours, etc. Et tout d'un coup, ce jeune type débarque. C'est un choc des cultures, en fait. Elle est très, très importante, cette scène.
C'est le seul choc de l'altérité, hein. C'est vraiment, moi, je trouve que c'est hyper intéressant aussi, quoi. Dans la vie, je me suis retrouvé aussi à héberger des gens, souvent des copains latino-américains qui étaient en galère et tout. Il y a un moment, ouais, bah, c'est bienvenu chez moi. Des fois, t'as envie de non, touche pas, ça a 300 ans. c'est normal. C'est...
Ouais, ouais. Et ce jeune garçon, dans la vraie vie, qui s'appelle Amroula Safi, il est vraiment cuisinier.
Tout à fait.
Comment vous l'avez trouvé, Julie?
Alors, on a cherché pendant plus d'une année en faisant ce qu'on appelle un casting sauvage dans les associations d'aide aux exilés. J'ai fait des rencontres incroyables. Alors, la première difficulté, c'est qu'il fallait qu'il ait ce jeune Afghan, parce qu'il y en a beaucoup de réfugiés, mais qu'il soit régularisé, c'est-à-dire que son droit d'asile était accepté. Je ne pouvais pas le faire travailler, parce que quand on est en demande d'asile pendant plusieurs mois, on ne peut pas travailler. Et donc, j'avais rencontré quelques Daoud, mais qu'on ne pouvait pas déclarer. Et d'autres rencontres très belles, mais à un mois et demi du tournage, pas d'évidence, ou en tout cas quelques rencontres, pas d'évidence. Et je me suis dit qu'il fallait qu'on aille dans des cuisines de restos afghans qui nous ont un peu pris pour des flics en civil, parce qu'on demandait s'ils avaient leurs papiers au début.
Ouais, donc, ça leur fait peur.
C'était un peu. Voilà. Et on a rencontré Amroula. Timothée, qui est un de mes assistants, l'a rencontré. M'a fait un FaceTime avec Amroula que j'ai rencontré le lendemain, avec qui j'ai passé 4 heures, et ça a été une grande évidence.
Il n'a pas lu le scénario, parce qu'il était en français, donc vous lui expliquiez les scènes.
Tout à fait, je lui ai tout raconté, le scénario, et après le dispositif de tournage, et ça il fallait que Benjamin soit plus que bon camarade là-dessus, c'est parce que Benjamin, parce qu'il avait appris le scénario, et qu'en face, il y avait quelqu'un qui connaissait la situation, que moi je travaillais en impro dirigé, donc Benjamin savait où devait aller, mais en même temps, se laisser porter aussi par ce que Amourla pouvait proposer. Et je pense que ça a été un... Et puis l'équipe aussi, parce que quand t'as un Perchman qui normalement connaît les dialogues et qui est déjà de l'autre côté, là c'était un peu plus chaotique au départ. Et finalement, on a trouvé notre méthode de travail.
Là, vous teniez les rênes, Benjamin.
Non, il fallait que j'accepte d'avoir appris un texte pour rien, par exemple. Quoi. Mais c'est ce qui est quand même des choses pires dans la vie. Non, mais vraiment, de ne pas pouvoir jouer un truc un peu copieux qu'on a.
Ce côté improbable collait aussi, enfin l'incertitude.
Oui, mais
la communication, ça collait quand même assez bien.
Et puis, mine de rien, j'arrivais à y revenir, en fait.
Oui, exactement.
Aux choses que j'avais apprises, qu'on s'était dit un peu par dépit, laissons tomber. J'arrivais en jouant avec lui, c'est comme jouer de la musique, on n'est pas obligé de parler nécessairement la même langue. Là, la scène qu'on a poste, qu'on a donné avec Brio, avec Marc, c'est du sabir total, c'est très, très intéressant, cette langue des gens qui parlent entre eux dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle. Ouais. Moi, elle m'a toujours fasciné, que ce soit en amour comme en amitié, quoi. Donc
c'est beau, c'est son ton désinvolte, ce que vous aimez aussi, Julie Navarro, chez Benjamin Biolay, un petit côté...
J'avais besoin absolument, dans ce film, parce que le sujet, encore une fois, est ce qu'il est, c'est-à-dire peut être extrêmement casse-gueule, dramatique, culpabilisant, moralisateur, et il fallait... Et j'avais besoin de ce personnage, et ce pas de côté, cet humour et cette légèreté. Je pense qu'on est pas mal à être des Arthur Biolay, et puis il faut se le dire, et c'est pas bien grave. Et de le voir ouvrir les yeux.
Elle a mixé les deux noms, c'est drôle. Ouais, hein. Arthur Biolay. Oui, Arthur Biolay, vous avez dit. Donc voilà. Benjamin, c'est vraiment Arthur, bah, c'est ça. Bah,
c'est plus qu'Arthur, c'est lui. Et évidemment, je profite qu'il soit pas là et qu'il m'écoute pas du tout.
Bien sûr.
Pour dire à quel point, non seulement c'est lui, mais voilà, ce dispositif du tournage dont on parlait, Benjamin a énormément apporté dans cette incarnation, dans cette justesse.
Marc Salbert, c'est vrai que, je sais pas si c'est dans le livre, mais c'est très compliqué, ce mélange hein, d'humour et de sérieux. Il y a l'épisode de la gale, je sais pas s'il est dans le livre ou pas.
Alors non, l'épisode de la gale n'était pas dans le livre.
Ouais, alors,
c'est vrai que le livre est plus farce que le film.
Ouais, mais ça c'est très beau parce que ça arrive d'attraper
La gale, c'est un truc de terrain que moi j'ai vu et que j'ai expérimenté quand on va nettoyer les tentes dans les assos, on met des gants, et je comprenais pas très bien pourquoi on mettait des gants, et on m'a dit, il y a la gale. Quand j'ai entendu ce nom, je me suis dit, mais cette maladie existe encore?
À cause de cette fameuse injonction, la gale ou le choléra, c'est ça? Non, on dit la peste ou le choléra, même la gale, non, je me trompe, je suis une connerie.
Mais d'ailleurs,
la gale, on le voit comme une espèce de maladie ancestrale, hyper virulente.
Médiévale.
Mais là où vous êtes doué dans votre comédie, c'est que vous en faites une vraie image drôle, avec les deux types en peignoir dans un canapé, ça c'est de la comédie.
Bien sûr.
Transformer ce vrai chose en image
en buddy
drôle
movie,
de en buddy movie, exactement.
Et en gag récurrent jusqu'à la fin.
Bien sûr.
Mais on ne dira pas.
Nous n'en dirons pas plus.
Non.
Alors dans cette association, il y a pas mal de mondes différents qui viennent de mondes différents. On a choisi cette scène avec l'intermittente du spectacle.
Bonjour, je m'appelle Marion. Je suis intermittente du spectacle, je suis comédienne surtout, enfin plus exactement, voilà. Et j'ai pensé qu'on pouvait organiser des sessions autour du masque ou du mime. Enfin, je pense que les mecs, ils ont envie de jouer, tout simplement.
Combien de temps, trois semaines, pas plus. Je lis deux. Attends, excusez-moi, vu que je suis intermittente, le mois prochain, je serai pas trop là, parce que je joue un spectacle pour enfants.
J'ai une expérience par rapport à ça qui m'a fait me réapproprier mon identité. Enfin, c'est compliqué à expliquer, mais alors apprendre le français, enfin, c'est super, ça c'est important. Mais je veux dire, c'est pas le plus... Moi, je pense que ça peut partir de l'âme, en fait, d'abord.
Excuse-moi Marion. Pardon. Non, pardon. Je me moque pas du tout. Pardon. Excuse-moi. Ça n'a rien à voir. Ça fait vraiment référence à complètement autre chose qu'on a vécu la semaine dernière, qui n'a rien
D'accord.
à voir.
Okay.
J'en suis désolée.
D'accord.
Ici, on est vraiment sur la première nécessité. Des cours de français. Il faut qu'ils fassent leur demande d'asile. Ça c'est.
Et des gens capables de donner des coups de main en cuisine. Hein.
J'allais y venir, Karim. Voilà, Karim.
Bonjour. Notre cuisinier.
Spécialiste du gratin.
Il y a une distribution de repas du lundi au vendredi et tout se prépare. Il y a 250 repas.
Julie Navarro, on rit beaucoup, mais il y a beaucoup de gens qui ont plein de bonne volonté qu'on retrouve dans ces associations, non ?
Exactement. Et il y a une petite part de d'humour et d'autodérision sur les intermittents du spectacle, parce que j'en ai vu, mais cette Marion va...
Alexandra, l'actrice, elle doit faire un merveille aussi. Voilà, c'est aussi Julie, c'est une grande directrice de casting, et on a vraiment envie de se payer sa gueule quand elle commence la scène. Moi, je suis passif dans cette scène, mais j'étais hilar, quoi. Vraiment comme eux, quoi. Comme les militants, quoi.
On a beaucoup
gens ont besoin de faire du mime. C'est beau, mais c'est con. Non, mais voilà, c'est comme souvent, ce qui est con, c'est beau aussi.
Et ce qui est beau aussi, donc, effectivement, c'est l'engagement incarné par Camille Cotin, la fatigue, la prise en charge de la douleur des autres. Il y a un mélange, effectivement, d'humour avec cette intermittente, mais aussi, on voit bien le fond du problème. Ces gens rassemblés qui vont vers le même but, et ça peut être grave, enfin, c'est grave, quoi, ce qui scrutine tous les jours, enfin, c'est destin.
En fait, le collectif de l'association, il est très fort. Il y a beaucoup de gens qui, je pense, différents, qui vont aussi parce que des failles perso, parce que ça leur fait du bien, parce que ça leur fait du bien d'être ensemble, ça leur fait du bien d'aider. Mais en même temps, j'ai aussi pu observer sur le terrain beaucoup de fatigue psychologique et beaucoup de dont on parle pas souvent en fait. C'est-à-dire d'aider les autres, quels que soient, enfin les aidants, mais quels que soient d'ailleurs pas forcément que des exilés, hein, mais s'oublient un peu, pensent pas forcément à eux, se radicalisent aussi un petit peu. J'ai connu des jeunes qui ont bossé avec nous, Benjamin, sur les services civiques, sur le tournage, et qui, à 24 ans, s'étaient payés un burn-out fou.
C'est que ça fait penser à la fonction publique dans tout ce qu'elle peut avoir de terrible, c'est-à-dire des gens qui se retrouvent en fait à une fonction qui est complètement inutile, on leur dit pas vraiment, et puis les budgets se réduisent comme une peau de chagrin, puis à un moment on se dit je suis complètement vain. Et on a vu des gens vraiment au bout de... Donc le personnage de Camille, de Mathieu, joué par Camille Cotin, est aussi vachement touchant parce qu'elle a eu un parcours personnel assez, assez vaste. Et elle vit la même crise qu'une cadre sup dans une boîte de disques, par exemple. Moi, j'en ai déjà vu des gens chez Universal dans cet état-là, quoi. Bien sûr, il y a les mêmes exigences et puis parfois on se prend exactement ce même mur.
Et sans pathos, Daoud, il va changer un peu le destin de ce journaliste et notamment le raccrocher à sa fille Émilie. Et on a choisi une scène parce que Émilie va emmener son père qui s'est fait blesser par la CRS avec ce jeune migrant qui va raconter un peu son destin et son parcours.
Oui, Didulé va venir.
Pourquoi tu as quitté l'Afghanistan?
Parce que je n'étais pas en sécurité là-bas. C'est pour ça que j'ai quitté le pays. Mon frère travaillait avec l'armée britannique en Afghanistan. Quand la politique a changé en Afghanistan et que les talibans sont arrivés, l'armée britannique a emmené toute ma famille à Londres et je me suis retrouvé seul. Mon frère m'a dit que je devais quitter le pays car je n'étais plus en sécurité.
D'autres questions encore ? Vas-y, Lucas,
Tu as vu une explosion ?
Ouais. En Afghanistan, c'est normal. C'est partout. Dans les hôpitaux, dans les écoles, dans la rue, partout.
Combien de pays tu as traversé ?
Environ 10 pays.
Tu peux nous montrer ?
Je suis passé depuis l'Afghanistan par le Pakistan, puis l'Iran. Ensuite, je suis allé en Turquie, et depuis la Turquie, je suis allé en Grèce. Et depuis la Grèce, je suis allé en Macédoine. Après la Macédoine, je suis allé en Serbie. Et après, c'était la Croatie, puis l'Autriche, puis l'Allemagne, et voilà.
Oui, Esther ?
Combien de temps tu as mis jusqu'en France ?
Environ 102 jours.
On lui a pas dit que c'était plus rapide en avion.
Julie Navarro, vous avez dû en entendre des récits comme ça.
Oui, c'est même très émouvant de l'entendre, en fait, de le réentendre, parce que je repense au moment du tournage. Et le dispositif était assez simple, c'est-à-dire une carte géographique au tableau, une salle d'élèves qui était une vraie classe de troisième, et je leur ai dit quelles questions vous souhaiteriez poser à un jeune réfugié que vous rencontrez. Donc ils sont allés dans des questions un peu perso. Moi, j'en avais injecté une ou deux qui m'arrangeaient. Et puis surtout, j'ai dit à Moula, réponds aux questions, et notamment, c'est son propre trajet, donc c'est là où la fiction...
Non, il l'a même simplifié, il l'a raccourci.
Il
a dû monter par la Scandinavie
avant de...
C'est quand même insensé, ouais.
Et en fait, je me souviens qu'on s'est tous regardés au moment où il a mis son doigt sur la carte, et que nous, on a fait... Et pourtant, l'histoire, je la connais, je l'ai entendue beaucoup de fois, mais de réentendre, là, tous les pays traversés... Voilà, c'est concret, c'est sa vie, c'est là où le destin de Daoud était en miroir avec Amroula, et surtout avec beaucoup de réfugiés. Donc,
pourtant, des récits petits, vous en avez entendu aussi.
Oui, mais Bien sûr, et puis c'est toujours dans ce film, il y avait des moments où finalement, même si c'est pas un documentaire, le fait que ce soit très documenté, que je cherchais ce naturalisme à tout prix, par moments on tournait certaines choses, le fait que l'association ait pris très très fort, même la rencontre du personnage de Benjamin et de d'Amroula était très touchante, parce que ces deux-là se rencontraient, on était un petit peu comme dans un western, ils se jaugeaient, ils se regardaient, c'était très touchant de les filmer. Et
C'est pas trop dur pour lui de... Toujours, on recevait Nicolas Boukraïev qui parlait de prendre des garçons, de les extraire d'une communauté et ensuite de revenir. Amroula, comment il vit ça maintenant? Il a vécu ce tournage. Et il fait quoi maintenant?
Il est cuisinier, toujours. Il est toujours cuisinier. Alors, il peut dire « je suis cuisinier acteur », dans le sens où si jamais on lui propose un autre rôle, il dira pas non. Après, c'est un peu une niche. Hein. Je lui dis surtout que la priorité, c'est d'apprendre bien le français, qu'il a commencé à apprendre. Il est très déterminé, il est très ancré, forcément en exil, donc avec des problématiques d'exilés, loin de sa famille. Il recrée des choses. Moi, je parle souvent à sa maman au Pakistan. Il est assez ancré, en fait. Je me fais pas vraiment de soucis pour lui, même si au-delà du film, il est rentré dans ma vie et dans la vie de pas mal de gens de ce film. Donc,
Vous aussi, Marc Salbert.
Oui, tout à fait. C'est un personnage
qui voit avec Julien Marc. J'ai pas entendu l'interview de Nicolas Boukraïev, mais il a pas été extrait de son milieu naturel être rejeté après comme une merde.
Ce qui arrive souvent. Nicolas Boukraïev évoquait ça.
Et là, il est tombé vraiment entre de très bonnes mains. Ça n'est pas le seul. Mais c'est vrai que ça pourrait être tout à fait cruel. Tout à fait cruel de jouer au jeu de l'empathie pendant 3 mois et de retourner.
Exactement.
Bien sûr.
En ouvrant cette heure,
je vous assure.
Je disais, Benjamin, vous êtes trop bien de faire des films quand on n'avait pas prévu d'en faire. C'est ce que vous avez dit un jour. Vous avez jamais rêvé de ce métier?
Non, pas du tout. L'acteur, non, pas du tout. J'ai rêvé de ce métier. Je crois que dès mon premier album en tant que chanteur, on entend que j'aime ce métier, enfin le cinéma à la folie, parce qu'on dirait une bande-son imaginaire. Et d'ailleurs, c'était mon objectif quand j'ai fait ce disque. Donc le cinéma a complètement bercé ma vie, mais plus ça nourrit l'auteur de chansons que je suis et le compositeur. Mais je pensais pas faire le comédien.
Je suis épaté par les musiciens qui deviennent acteurs. Comment ça se passe au début?
On est docile, les musiciens. On est gentils. On a l'habitude de qu'on nous coupe en pleine. Quand vous êtes au conservatoire, vous êtes en train de triper là sur votre violon et non stop, à mesure 15, remettre la colophane. Non mais voilà, c'est ça la vie d'un étudiant. Donc on n'est pas en sucre, comme on dit. On peut nous couper comme ça. Enfin, ça fait partie de notre éducation aux musiciens, même en studio. On se coupe très violemment, hein. On se dit pas couper, elle était pas mal. Je peux parler.
Oui, Julien Barou a raison.
Il y a une oreille. C'est que chez Benjamin, il y a un psychopathe de l'oreille. Enfin, il y a quelqu'un qui est, c'est vrai. Enfin,
je supporte pas les bruits, les bruits.
Et vous savez quand vous êtes mauvais?
Ouais, tout de suite. Mais déjà, s'il y a du bruit d'ambiance, je vais pas être bon parce que je vais pas pouvoir sortir la note comme j'avais. Je suis comme un quatrième assistant qui gueule pour qu'il y ait le silence sur le plateau, moi.
Ah oui.
Je gueule gentiment ou pas. Mais, ça me perturbe. C'est vraiment à l'oreille. Donc, beaucoup de musiciens, quand j'ai vu jouer Philippe Catherine la première fois, je me suis dit, tiens, il continue à jouer, quoi. C'est de la même, sauf que pour nous, c'est vachement marrant. On passe de notre chambre à coucher d'auteur-compositeur à la musique de chambre. À jouer avec Camille Cotin, qui n'a pas la même musicalité que moi, par exemple.
La question est peut-être bête, mais j'ai l'impression que plus vous avancez dans le cinéma, plus vous vous éloignez de vous-même, Benjamin Biolay, vous voyez ce que je veux dire? Vous allez vers d'autres.
Bien sûr, mais je le fais avec d'autant plus de plaisir et de légèreté que ça n'impacte pas l'auteur-compositeur en moi. Il est immuable.
Vous aviez peur de ça?
Oui, un peu.
Ah oui?
Bah oui, comme... Quand j'étais jeune, bêtement, j'avais peur de gagner ma vie un jour avec la musique, en me disant qu'est-ce que ça va faire si ça arrive. J'en mourais d'envie, mais j'avais cette légère angoisse que ça me rende con et stérile.
Vous éloignez tellement.
Ça m'a rendu juste con.
vous éloignez tellement que vous pouvez maintenant arriver à incarner un patron d'une équipe de foot. On a choisi cet extrait parce qu'il est incroyable. C'est plus vous du tout. C'est-à-dire que vous êtes dans cette scène, vous reboostez les joueurs dans la fièvre d'Eric Benzekri.
Moi, quand j'ai repris le club, on était en national. On est monté en L2, on a joué les barrages, on a paumé. Saison d'après, champion de L2. On monte en Ligue 1. OK. Là, ils nous ont dit, la Ligue 1, c'est pas pour vous, les mecs. C'est trop chaud, vous allez faire l'ascenseur. Résultat, première saison, 11e. Quart de finale de Coupe de France. Deuxième saison, 9e. Finale de la Coupe de la Ligue. Troisième année, 3e, dont la victoire au Parc. Qui peut rougir de ça? Sofiane, tu peux rougir de ça? Non. Moussa, tu peux rougir de ça? Toi, Kevin, tu peux rougir de ça? Non. Tu sais pourquoi? Parce qu'on doit être fiers. On doit être fiers de ce qu'on a accompli. On doit être fiers. On est fiers.
On m'avait dit qu'un jour, vous alliez crier comme ça.
Non, ça, je l'ai vu 25 fois dans la vie, moi.
Mais oui, ben oui, bien sûr. Mais entre le voir et savoir le refaire,
vous êtes dans un vestiaire, ça sent le camphre, il y a des mecs qui sont en sueur, qu'on... C'est pas forcément des acteurs, mais on les a mis dans des conditions, on leur a dit, vous êtes des gros nuls, vous avez paumé, quoi. Et eux, ils encaissent tout ça, et il y a un truc qui est quand même... C'est jouissif à faire, quand même, quoi.
Ça s'appelle La Fièvre, ça passe en ce moment sur Canal+, mais surtout, vous êtes à l'affiche de ce film qui s'appelle Quelques jours pas plus, c'est ce qu'on lui dit quand il va prendre Daoud chez lui.
C'est ce qu'il pense.
Et ça sort mercredi prochain. Un petit morceau, Liam Bellet, avant de parler des sorties. Vous restez avec nous, monsieur.
On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Laurent, on va commencer par ce par ce film, l'affaire Abel Trem, troisième film du cinéaste hongrois Gábor Reis. C'est la fin de l'année scolaire à Budapest, recalée à son oral d'histoire. Abel décide de mentir à ses parents sur les raisons de son échec et déclenche alors un scandale politico-médiatique. Encore un film autour de l'éducation, mais un prétexte aussi à tirer à vue sur la Hongrie populiste de Viktor Orban à partir d'un pins porté par un élève lors d'un oral. C'est fort. Ce qu'il est moins, je trouve, c'est sa construction complexe, et notamment cet effet Rashomon, une scène filmée du point de vue d'autres protagonistes, qui n'apporte pas grand-chose à ce récit, pourtant intelligemment scénarisé.
Ah oui, oui, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. On se croirait dans un film roumain,
oui, c'est
dans
vrai.
Ce baccalauréat de Munju, et c'est un compliment dans ma bouche et dans la vôtre.
Ouais.
Moi, la multiplication des points de vue m'a pas gêné, parce que je trouve qu'elle participe, y compris de l'ironie d'ailleurs générale qui traverse tout le film. C'est quand même un incroyable décryptage de la façon dont une rumeur peut se propager, qui dit quoi, à qui et comment. Et à ce moment-là, l'engrenage se fait, ou comment un tout petit mensonge de rien du tout, enfin qui peut être passé sous silence, peut virer au scandale médiatique. Je trouve ça vraiment très très réussi.
C'est aussi proche des films iraniens dans ce genre de problème.
Absolument, l'affaire Abel Trem. Ouais.
Le jeu de la reine de Karima Inouz avec Alicia Vikander et Jude Law. Catherine Parr est la sixième femme du roi Henri VIII, dont les précédentes épouses ont été soit répudiées, soit décapitées. Avec l'aide de ses dames de compagnie, elle tente de déjouer les pièges que lui tendent l'évêque, la cour et le roi. Un film en anglais du cinéaste brésilien, une relecture féministe de l'histoire, mais bien sage dans sa réalisation.
Oui, c'est curieux, cette grosse production, presque un peu en langue anglaise, d'un cinéaste brésilien dont le film précédent était, à mon sens en tout cas, avait beaucoup plus de charme. Il s'appelait La vie invisible de Rédis Gusmão. Oui. Là, c'est ce curieux objet élisabétain, ce curieux objet ultra-féministe, donc forcément anachronique dans l'Angleterre quand même de 1540, on n'en était pas là, hélas. Mais et puis cette passionnante plongée en permanence dans les entrailles et les tripes du roi, au bout d'un moment, moi j'en ai eu un peu la nausée.
Ouais. Vous qui aimez l'Argentine, Benjamin Biolay, vous allez adorer ce film.
Ah, oui.
Los Delincuentes du cinéaste donc Rodrigo Moreno. Alors des séries, voilà un film qui tient son temps suffisant. 3 heures. Pour raconter une histoire, il en fallait ni plus ni moins. Un pitch salé. Un employé de banque va dérober 650 000 dollars dans le coffre. L'équivalent de 25 années de travail, il a calculé pour deux, lui et un autre collègue qu'il va mettre dans la combine. Lui fera de la prison, il a calculé le nombre d'années également. Et l'autre cachera le magot. Mais ce n'est pas tant cette intrigue hold-up qui importe, c'est plutôt le destin de deux hommes qui découvrent la liberté magnifique moment bucolique et sensuel dans la campagne, liberté dans un système aliénant si bien décrit dans les scènes de banque, deux trajets parallèles faits de hasard et qui se croisent si subtilement dans un jeu de flashback super habile. C'est du très grand cinéma.
Oui, nos confrères des Quais du cinéma consacrent leur dernière une à ce cinéma argentin en disant très intelligemment « Où va l'Argentine ?» pour l'interrogation. Ouais. Cartographie d'un cinéma foisonnant et menacé.
Ouais.
Les deux termes
extrêmement
sont
menacé.
Extrêmement menacé. Les deux termes sont très très importants. Ouais. Et c'est vrai qu'avec Trenque, Loken, Eureka récemment, on a vraiment un cinéma argentin, mais d'un intérêt extraordinaire. Et celui-là ne dément pas, à partir d'un, vous le disiez très bien, à partir d'un événement qu'on a déjà vu, les films de braquage, c'est un genre en soi dans le cinéma et pas seulement américain, mais le plus important, c'est ce qui vient après.
Ouais.
Et là, franchement, alors là, cette espèce de road movie croisé, poétique, drôlatique, initiatique, ironique, enfin, il y a tout. Il y a une ode à la vie qui est incroyable, qui est absolument réjouissante. Il faut aller voir Los Delincuentes, c'est à mon sens le film de la semaine du mois.
Souvent, vous verrez le même logo, là, ça s'appelle Inca, c'est le CNC argentino-chilien qui est derrière les plus grands films et les grands cinémas, et il est directement menacé, voire
exactement
ce matin à peu près toutes les subventions.
Alors, le nouveau président Javier Milei,
on appelle ça un président.
Ouais, c'est ça. Sur l'état de la culture, il y a un très bon article dans Télérama cette semaine qui s'appelle Les idées.
Très bon, mais très déprimant.
Ouais, très bon. Les indés font de la résistance. Mmh.
Sur ce groupe de producteurs dans leur petit studio.
Oui, c'est ça.
Je les connais.
Exactement.
Ils font des films de 14 heures, je les adore. Ouais.
Mais oui.
Et c'est comme ça qu'on résiste.
Mais oui.
Absolument.
C'est celui-là, il fait 3 heures. Non, mais
allez. Un court-métrage, oui.
Au Corno, une histoire de femme de Rayone Camborda en 71, Espagne franquiste. Dans la campagne galicienne, Maria assiste les femmes qui accouchent et plus occasionnellement celles qui ne veulent pas avoir d'enfants. Voilà ce que vivaient les femmes dans les années du franquisme, sauvées par certaines des héroïnes telles que cette femme Maria. Un film comme un geste artistique et politique, bien sûr.
Oui, alors moi j'ai découvert que le au corneau, ça veut dire en espagnol, c'est l'ergot du seigle, qui est un champignon vénéneux et parasite du blé, utilisé jadis pour accélérer l'accouchement, mais aussi pour provoquer des avortements. Donc le titre est en soi le résumé du film, la métaphore du film, parce que le film dit très clairement donner la vie ou l'interrompre, c'est d'abord la liberté des femmes. Et c'est ça qui est important, et le reste, on s'en fiche. Et tout le portrait féminin de ce film, c'est de se situer sur cette ligne de crête-là, avec les deux. Cette femme voit à la fois des femmes qui vont accoucher et des femmes qui veulent avorter. C'est un propos quand même très très intéressant.
Apollonia, ça c'est incroyable. Deux c'est pendant Apollonia. 13 ans, Léa Globe, une jeune réalisatrice danoise, a filmé son amie, la peintre franco-polonaise Apollonia Sokol. Je ne sais pas si vous la connaissez. L'épopée intime d'une artiste du théâtre Lavoir Moderne à Paris, que dirigeaient ses parents à son ascension, en passant par les Beaux-Arts à Paris, Los Angeles, l'apprentissage, l'art, le monde terrifiant de l'art, le doute, fais ton truc, le monde fera le reste, lui dit un galeriste, c'est un très beau conseil. L'amitié qui lie ces deux femmes, l'amitié qui lie Apollonia avec la fémène Oxama, trois parcours d'âme sœurs, un portrait saisissant mais fascinant et bouleversant sur une jeune femme qui dédie corps et âme à son art. Et c'est un film que devraient voir tous les jeunes artistes pour savoir ce que c'est qu'un parcours, un parcours d'artiste, Laurent.
Oui, et c'est un vrai film de cinéma en même temps parce que effectivement c'est deux artistes, c'est-à-dire c'est l'une filme l'autre, mais l'autre regarde aussi la réalisatrice. Donc c'est de ce point de vue-là aussi très très intéressant, d'où le double titre, hein, Apollonia.
Oui. Paternel, c'est un premier film de Ronan Tronchot dans une petite ville du centre de la France. Simon, c'est Grégory Gadebois, est un prêtre dévoué à sa paroisse jusqu'au jour où il apprend qu'il a un enfant.
Oui, alors il y aurait peut-être un petit gag au début, enfin qui pourrait initier le film, c'est qu'évidemment, voilà, le prêtre, c'est quelqu'un à qui tout le monde dit mon père, alors que personne ne peut se prétendre. Et quand même, voilà, donc cette situation de départ, elle est drôlatique, le reste vraiment m'indiffère absolument. C'est un film qui est fait presque pour le Vatican, ça les concerne. Ils ont qu'à voir s'ils veulent ou pas, effectivement, les prêtres soient se marient et des enfants, etc. J'avoue, moi, je suis resté absolument insensible à tout ça. Et du coup, ça, d'ailleurs, ça invisibilise presque la figure centrale du film, qui devrait être le fils. Parce que la vraie figure intéressante, c'est le fils d'un prêtre. Ça, moi, ça m'intéresse vraiment. Mais c'est, malheureusement, il n'y est pas.
Ouf, et si on parlait d'une immense reprise signée Fritz Lang, qui s'appelle Manhunt,
1949, période américaine de Fritz Lang, ben, y a un capitaine qui a, juste avant la Seconde Guerre mondiale, dans sa ligne de mire, Hitler. Manque de peau, il est arrêté. Allez, le film continue comme ça, je vous en dis pas plus, mais c'est absolument haletant.
Avec Walter Pidgeon et John Bennett et John Carradine. Super casting.
Super casting.
Avant les cadeaux, parce qu'on a un petit peu le temps, on peut prendre son temps, il y a deux festivals.
Oui. L'un à Marseille, du 1er au 6 avril, qui est le Festival International Musique et Cinéma, ça vous concerne, Benjamin Biolay. Des courts-métrages, des longs-métrages, évidemment, des ciné et concerts, et une attention toute particulière à la jeune création musicale pour le cinéma. C'est un secteur en pleine expansion. Heureusement, on en revient à donner sa place aux musiciens de cinéma et à faire travailler des jeunes compositeurs. Il était temps.
Laurent, on rappelle que généreusement, très généreusement, Benjamin Biolay a apporté toutes les musiques d'un documentaire qu'on adore.
Merveille.
Et J'aime à la fureur.
Mademoiselle, absolument.
C'est vrai, non, mais vous avez.
Magnifique.
Vous avez complètement musicalisé ce film qui
était. C'était un film muet, presque.
Et ouais,
c'est vrai. Moi, je l'ai vu comme un film, comme un hommage au cinéma de.
Avec des films Super 8, notamment.
Ouais, voilà. Il changeait de montage tout le temps, André, donc il y a un moment, je me suis dit, On va faire n'importe quoi et ça va marcher. Et parfois, ça se voit quand quelqu'un vous donne l'impression de faire n'importe quoi, mais qui, en fait, lui, il a une image très précise de ce qu'il veut faire. Et ben, il m'a fait cet effet-là pendant 6 mois, André Bonzel. Ça, il change tout le temps, et en fait, c'est...
Mais vous êtes vachement amusé, j'imagine.
Ah, je me suis éclaté,
c'était génial. Vous aviez tout pour vous, je veux dire.
Oui, parce que le cinéma muet, ça implique souvent des mélodies.
Oui.
Vous voyez, c'est normal et tout. Et c'était, hormis cette voix off, c'était du cinéma muet. Et donc, ça permet de faire des choses très, très démonstratives, si j'ose dire, très, très incarnées, quoi. C'est pas du sound design, donc
non.
Je me suis fait plaisir.
Ouais, bravo.
un autre festival, Laurent.
Jusqu'au 7 avril, La Résistance, avec un grand air au cinéma. C'est la 19e édition de ce festival et c'est en Seine-Saint-Denis, Bagnolet, Bobigny, La Courneuve, Noisy, Romainville, entre autres. L'occasion de revoir, par exemple, Un condamné à mort s'est échappé, Lacombe Lucien, et puis la version intégrale de Underground, qui a rarement été diffusée, sauf une fois, je crois, sur Arte, il y a quelques années. Donc c'est l'occasion aussi. Voilà,
une des deux palmes d'or, Némir Kusturica.
Absolument, tout à fait.
Maintenant, on a vraiment du temps. C'est bien, on a trois cadeaux à chacun, on commence par qui ?
Eh bien, Benjamin Biolay, on va vous offrir Main basse sur la ville, vous qui êtes dans la fièvre de politique à fond en ce moment. Moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un film très, très politique de Francesco Rosi, le grand cinéaste italien. Les trois coffrets dont on va parler ont la particularité d'avoir des bonus incroyables assortis d'un livret à chaque fois. On félicite vraiment les éditeurs DVD qui font énormément d'efforts. Là, en l'occurrence, c'est Rimini, film de 1963, le livret de Jean Gilli, le grand spécialiste du cinéma italien. Et c'est un scandale incroyable sur la spéculation immobilière. Le moins qu'on puisse dire, c'est que des affaires récentes ont prouvé que tout ça n'était pas très, très daté.
Francesco Rosi, très grand cinéaste politique italien. Cinéaste. Vous connaissez un peu son œuvre ou pas, Benjamin ?
Pas bien.
Non,
et bah alors, tant mieux, c'est une belle façon d'y entrer dedans.
Ouais. J'espère. Merci beaucoup.
Pour vous, Marc Salberge, La soif du mal d'Orson Welles, ça vous dit quelque chose ?
J'adore ce film.
C'est mon
film préféré.
Mais non.
Non, mais vraiment, c'est incroyable parce que je lisais en fait le. J'ai vu que c'était ça et j'adore ce film. Oui, et Orson Welles qui joue un flic qui fabrique des preuves pour faire condamner un vrai coupable.
C'est noir de chez moi.
C'est extraordinaire.
Et avec ce.
Je ne l'ai pas, donc je suis ravi.
Et ce plan séquence extraordinaire.
Le début, qui est incroyable.
N'est-ce pas ?
Charlton Heston.
Charlton Heston, où il passe une frontière.
Très très nombreux bonus, un premier montage qu'on n'a jamais vu et que vous allez voir si vous aimez le film, ça va beaucoup vous plaire, c'est une formidable édition, c'est édité par BQHL, là aussi il y a un petit livret, je le disais, trois Blu-ray, film de 1958, ben, on est très très heureux de vous l'offrir.
Merci
encore
beaucoup.
Plus.
Et pour Julie Navarro,
et pour vous,
mais qu'est-ce
Navarro
donc
oh, c'est un gros truc, regardez.
Regardez, est-ce que vous connaissez, moi je... est-ce que vous connaissez Michael Romer. Cinéaste américain, moi
non.
Je ne le connaissais pas.
Pas.
Je crois qu'on est beaucoup à le découvrir. C'est une trilogie américaine. Il y a un film des années 60, un film des années 70, un film des années 80. C'est un très grand cinéaste indépendant qui a continué comme ça sa carrière en dehors des circuits avec des regards sur la société américaine qui sont formidables. Je pense vraiment que ça sera pour vous aussi une belle découverte. On le doit à l'éditeur Camélia. Et là aussi, beaucoup de bonus, beaucoup de choses intéressantes à découvrir sur l'univers de ce cinéaste américain.
Merci beaucoup.
Merci Julie Navarro, merci Marc Salbert, merci Benjamin Biolay pour ce beau film qui s'appelle Quelques jours pas plus et qui sort mercredi prochain. Merci à nos deux voix françaises, Cécile Soulet, Joseph Ascal, et merci à notre belle équipe, Xavier Pestugia à la réalisation, Christophe Magère à la préparation et Thierry Dupin pour la programmation musicale.
Merci.
Au revoir.
Salut.